Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonjour à tous. L'éradication de la rébellion ougandaise de l'ADF au centre des discussions hier à Beni entre le chef d'état-major général adjoint de FARDC chargé des opérations et du renseignement, le gouverneur du Nord Kivu et le commandant de l'armée ougandaise. La RDC et la France envisagent de travailler ensemble dans la préservation des forêts du bassin du Congo. C'est ce qui ressort de la rencontre hier à Kinshasa entre la ministre française déléguée chargée de la francophonie et la ministre congolaise de l'environnement. Notre invité, le professeur Willy Ali Kiamassa, ministre provincial des Finances du Maniema. Le gouvernement provincial vient de lancer la deuxième phase de réhabilitation des routes Kindu Kibombo, Samba Kasongo, ainsi que de certaines autres dans la ville de Kindu. Tout cela grâce à la taxe conventionnelle. Il nous explique cela dans ce journal. Bienvenue à cette édition. Le gouvernement de la RDC et l'AFC M23 ont signé hier lundi à Doha, au Qatar, le mandat issu de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, réaffirmant ainsi leur engagement en faveur du cessez-le-feu et du processus de paix. Cette signature intervient à l'issue de la réunion du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu organisé par l'État du Qatar dans le cadre de ses efforts pour résoudre le conflit dans l'est du pays. Elle fait suite également à la reprise de discussions entre les délégations des deux parties il y a deux jours. Autre précision avec vous, Martial Papi Moukeba.
La réunion a réuni les membres du mécanisme avec la participation des États-Unis et de l'Union africaine comme observateurs, la République du Togo en qualité de médiateur désigné par l'Union africaine ainsi que la MONUSCO et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Selon un communiqué du ministère qatari des Affaires étrangères, les deux parties ont réaffirmé leur engagement en faveur du cessez-le-feu et de l'accord cadre de Doha pour la paix signé le 15 novembre 2025 ainsi que leur détermination à mettre en œuvre de bonne foi toutes les obligations prévues. Les discussions ont porté sur l'évolution de la situation, les défis actuels et la nécessité des mesures concrètes pour renforcer le suivi, la vérification et l'échange d'informations dans le cadre du processus de paix. La MONUSCO a été chargée de dépêcher sa première mission dans la ville d'Uvira au sud Kivu pour surveiller les cessez-le-feu avec tous les canaux de communication nécessaires établis pour faciliter cette mission, précise les communiqués. Beni, Martial Papi Moukeba, Radio Kapi.
Merci Martial. Comme annoncé en titre, le général Jacques Tchali Gonza Ndourou, chef d'état-major général adjoint des FARDC, chargé des opérations et du renseignement, est en mission depuis dimanche à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu. Hier lundi, il a rencontré le gouverneur de la province en présence du commandant du secteur opérationnel Sokola 1 des FARDC et du commandant des troupes de l'armée ougandaise UPDF engagées conjointement dans la lutte contre les ADF. Les échanges ont porté sur les stratégies à mettre en œuvre pour éradiquer ce groupe armé qui multiplie depuis plusieurs semaines des attaques dans les territoires de Lubero et de Beni. Des précisions supplémentaires sont apportées par le lieutenant Marco Elongo, porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1, dans cet extrait choisi par Martial Papimukeba.
En tant que chef militaire, cette mission est une mission d'inspection et de commandement de troupes engagé sur le terrain, voilà pourquoi il est ici, j'insiste, une mission de routine. Et aujourd'hui, il était ici au gouvernorat de la province du Nord Kivu, dont le chef-lieu est provisoirement ici à Beni, afin de présenter les civilités auprès de l'autorité provinciale et de lui faire part de sa mission. Il est ici pour une certaine durée et à ce que nous devons retenir, il est ici afin d'évaluer les capacités opérationnelles des hommes sur terrain, les moyens de logistique à pourvoir auprès des unités qui sont ici sur terrain, ainsi que voir dans quelle manière éradiquer ce phénomène ADEF qui ne fait que torturer la population, qui ne fait que mettre la population en pleurs. Donc voilà pourquoi il est ici et le reste de sa mission vous sera transmise à temps réel.
Et toujours au Nord Kivu, la cité de Niabiondo, territoire de Masisi, s'est réveillée aujourd'hui mardi sous une forte tension. C'est après une nuit marquée par des violents affrontements entre les rebelles de l'AFC M23 et des combattants au Ouazalindo. Plusieurs sources locales rapportent que les habitants surpris en pleine nuit ont passé des heures terrées dans leur maison. Du détail avec vous, Élisée Chikota Chiveta.
Selon des témoins sur place, les premiers coups de feu ont été entendus vers 21h locale lundi. Des détonations d'armes lourdes et légères ont retenti dans toute l'agglomération de Niabiondo, plongeant la population dans la panique dans cette zone déjà éprouvée par l'insécurité. Les affrontements opposaient les combattants Wazalendo, majoritairement issus du groupe Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, de Janvier Karahiri aux rebelles de l'AFCM-23 qui contrôlent la cité depuis plusieurs mois. Nous avons été surpris par des tirs intenses, impossible de sortir. Tout le monde est resté caché dans sa maison, raconte un habitant joint tôt ce matin. Si une grande partie de la population restait confinée, certaines familles vivant en périphérie ont fui vers des localités voisines pour se mettre à l'abri. Ce mardi matin, la situation demeure tendue et imprévisible, selon plusieurs témoignages recueillis sur place. Rappelons que jusqu'en 2024, Nyabiondo était l'un des principaux bastions des Wazalendo de la PCLS avant de tomber entre les mains de l'AFC M23. Depuis, les Wazalendo multiplient les tentatives jusque-là infructueuses de reprendre cette cité située à la limite entre les territoires de Masisi et Walikale.
Pendant ce temps en Ituri, 14 personnes récemment enlevées par des rebelles ADF au village Kazaro et Apakolu, au sud du territoire d'Irumu, ont réussi à s'échapper hier lundi des mains de leurs ravisseurs. Cette fuite est intervenue à la suite d'une opération de traque menée le même jour par des FARDC contre des positions des ADF au village de Mamouvé, à la limite avec le Nord Kivu. Selon Christophe Mouniandero, responsable territorial de l'ONG CRDH, ces ex-otages, encore sous le choc, se trouvent actuellement entre les mains de l'armée. Il explique ici les circonstances de cette évasion au micro de Jean-Claude Loki.
Après que ces terroristes aient attaqué la localité de Mamové, c'est au Nord Kivu, alors il y a eu une poursuite de l'armée. Alors pendant que l'armée poursuivait l'ennemi était en débandade, c'est de là que ces 14 ex-otages et aussi à leur tour ont réussi à prendre fuite. Et voilà, c'est aujourd'hui qu'ils venaient de quitter la brousse. Et pour le moment, sont entre les mains des services de sécurité. Au niveau de Oicha, parce que passa à Petineko vers Luna Samboko, c'est à la limite avec le Nord Kivu, alors traversa à la rivière Samboko, les FRDC du Nord Kivu les ont récupérés. Ils sont dans un état qui est un peu bien. Vous savez, état stressé, vu qu'ils ont été entre les mains, donc sur le plan psychologique, ils sont touchés, mais leur état physique, ça ne cause pas un problème.
Les tentatives d'attaque de l'aéroport international de Bamboka, survenues samedi et dimanche dernier à Kisangani, continuent de susciter des réactions. La plus récente est celle du député national de Latchopo, Patrick Matata Makalamba. Il rappelle que les habitants de Kisangani n'ont jamais oublié les souffrances vécues entre 1997 et 2000 lors de la présence des troupes rwandaises dans la ville. Et pour lui, les Boyomé ne sont pas prêts à revivre les horreurs de la guerre. Des propos de Patrick Matata Makalamba, recueillis par Jacques Mkonkole.
Obus largués sur des objectifs civils, corps éventrés jetés dans la rivière Tchopo, enlèvements et disparitions forcées, viols et violations innommables des droits de l'homme. La population de la ville de Kisangani n'est pas prête à revivre ces scènes macabres venant du même régime du Rwanda, qu'ils prennent la couleur du RCD ou de la nébuleuse FC-123. Nous saluons la détermination du commandant suprême des FARDC, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le ferme engagement et l'investissement ont permis aux forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo de faire échec à ces attaques sordides en neutralisant la dizaine d'appareils des morts. Nous appelons subséquemment le gouvernement de la République à soutenir et renforcer le dispositif sécuritaire de la ville de Kisangani et de ses environs. Nous invitons la population boyomaise à demeurer vigilante et à collaborer étroitement avec les autorités locales dans la dénonciation de tous les mouvements suspects pour protéger efficacement notre ville contre les sanguinaires qui en veulent à la République démocratique du Congo.
Rappelons que le week-end dernier, des drones kamikazes transportant des munitions non conventionnelles ont failli frapper l'aéroport de Bamboka. Ils ont été repérés, interceptés et détruits par les FARDC. Un accord cadre entre la République démocratique du Congo et la République française consacré à la préservation des forêts du bassin du Congo sera signé très prochainement. Cette perspective découle de la rencontre tenue hier lundi à Kinshasa entre Éléonore Karoua, ministre française déléguée chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger, ainsi que Marie Nyangé, ministre congolaise de l'environnement. Selon Éléonore Karoua, ce partenariat gagnant-gagnant prévoit un appui technique et financier de la France, ainsi que des solutions concrètes pour mettre en œuvre des programmes destinés à assurer une rémunération équitable des communautés forestières du Congo. La ministre française explique le sens de cet accord au micro de Lise Kavira.
Vous savez, la France est très engagée dans les politiques de développement et de protection de l'environnement dans le milieu forestier et convaincue d'ailleurs de la nécessité d'avoir une approche globale, une approche par pays. Tout le développement d'un pays tourné autour de cette préservation de l'environnement et de la juste rémunération des services environnementaux qui sont rendus par des pays, notamment comme la RDC. C'est-à-dire prendre en compte les populations qui vivent dans ces bassins forestiers, ces communautés qui, justement, en préservant les forêts, en ne déforestant pas, rendent ces services environnementaux. Et puis, comment est-ce qu'on rémunère ce service? Comment est-ce qu'on le prend en compte? Comment est-ce qu'on les accompagne dans leur développement, un développement durable et qui préserve l'environnement? C'est tout l'objet de cet accord cadre qui devrait être signé très prochainement, qui est en train d'être finalisé en ce moment et qui permettrait, justement, une expertise technique et puis un accompagnement de la part de la France qui a, justement, cette expérience et puis surtout cette volonté politique de renforcer son partenariat avec la RDC en la matière.
Au Sud-Kivu, la population est confrontée à une pénurie sévère d'eau potable. La Kishinji, c'est dans la zone de santé de Minova, territoire de Kale. Les deux principales sources d'approvisionnement, Kitalima et Murambi, sont presque à sec. Les installations vétustes ne fonctionnent plus. Faute d'eau traitée, les habitants se tournent vers les rivières, exposant la communauté à un risque élevé de maladies d'origine hydrique, cas du choléra qui refait surface dans la région. Les habitants lancent un appel urgent aux autorités et aux organisations humanitaires pour réhabiliter les sources d'eau et garantir l'accès à une eau potable sécurisée. Suivez le témoignage de Willy Chimangak, habitant de Kishinji, joint par Jackson Malia Abwana.
Nous souffrons beaucoup. L'épidémie de choléra réapparaît et le risque de nous achever à cause des manques d'eau. Les deux sources que nous avons, qui nous aident, sont Kitalima et Murambi. Malheureusement, les sources sont asséchées. Les tuyaux sont vieux. Ce sont des sources du projet qui a débuté vers 2010. Ils ont construit la source en 2012, installé les tuyaux en 2012. De 2012 à aujourd'hui 2026, il n'y a eu aucun changement ni aucune réhabilitation. La source est fatiguée et commence à s'effriter. Ce qui signifie qu'il n'y a plus d'eau. Elle n'entre plus dans les tuyaux, elle ne passe plus. Nous ne savons plus quoi faire. La population souffre donc. Elle commence à aller puiser l'eau des rivières qui coulent en bas à cause du manque d'eau.
Autre chose, les infirmières et infirmiers du Congo appellent à une amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Réunis au sein de l'UNIC, Conseil national des infirmières et infirmiers du Congo, ils ont pris cette résolution à l'ouverture de la 4e édition de leur Conseil national qui se tient du 2 au 4 février à Kinshasa. Dans son allocution, le secrétaire général de l'UNIC a invité les participants à œuvrer pour doter l'organisation des textes modernes, clairs et mobilisateurs. Les propos de Joseph Kibangula, recueillis par Blaise Ndongala.
Je dois dénoncer avec force les pratiques abusives de certaines banques payeuses. Ces institutions bancaires censées être au service des agents de l'État et aux infirmiers particuliers se sont transformées en véritables pièges humiliants. Au lieu de faciliter les paiements des salaires, elles imposent des retards volontaires de paiements qui découragent nos collègues, surtout en province. Ces pratiques ne sont pas des simples désagréments. Elles sont une atteinte directe au respect dû aux travailleurs de l'État que nous sommes. Elles fragilisent notre profession et sapent la confiance placée en eux et nous devons avoir une attitude dans l'ensemble pour mettre fin à ces pratiques-là. L'UNIC et les syndicats du secteur santé refusent l'humiliation, la tracasserie, car le salaire est un droit sacré.
Le directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, confirme le bilan de 5 morts et de plusieurs blessés à la suite du déraillement du train Banakatanga dans la province du Tanganyika. Arrivé à Kalemi hier lundi, il s'est rendu sur le lieu de l'accident. Selon lui, les victimes étaient des passagers irréguliers n'ayant pas payé leurs billets. Il invite la population à se conformer aux règles en achetant normalement les titres de transport pour voyager à bord des trains de la SNCC. Fabien Moutamba a également précisé que l'accident a été causé par du sable qui a fait patiner la locomotive avant son déraillement. On écoute Fabien Moutamba, directeur général de la SNCC, dans cet extrait sélectionné par Paula Munanga.
L'incident a eu lieu au niveau de Makala, c'est sur un pont. Il y a eu beaucoup de sable et il y a eu un patinage au niveau de la locomotive et avec les sables, la locomotive a déraillé. Je voudrais vous informer que sur le passager régulier, c'est-à-dire ceux-là qui avaient leur titre de transport, nous n'avons pas connu de problème. Nous avons connu 5 décès à la suite de cet incident et ce sont les passagers irréguliers. C'est ici une occasion pour nous d'essayer de sensibiliser la population riveraine. Venez à la SNCC, payez votre titre de transport, prenez place à bord de nos trains, nous n'aurons pas de problème. Nous avons été agréablement surpris, l'attention avec laquelle son Excellence, Monsieur le Gouverneur, la manière dont il a pris à bras le corps les problèmes, puisque dès que l'incident a eu lieu, notre directeur provincial, il a pris contact avec le gouvernorat de province et le gouverneur s'est impliqué totalement.
Un incendie a eu lieu hier lundi à Mbanza-Ngungu dans la province du Congo central, dans un dépôt de carburant situé au quartier Loma. Selon un premier bilan, il n'y a pas à mort d'homme, mais plus de 250 bidons d'essence sont entièrement brûlés. Les pertes matérielles sont donc lourdes pour les opérateurs concernés. Pour l'instant, la cause de l'incendie n'est pas encore déterminée. Une enquête est ouverte.
Actualité internationale.
Zambie, le défunt président Edgar Lungu attend toujours d'être enterré 8 mois après sa mort. Un balai judiciaire bloque les obsèques de l'homme décédé le 5 juin 2025. Selon africanews.fr, la famille du défunt dirigeant souhaite un enterrement en Afrique du Sud, lieu du décès, demande rejetée par la haute cour de Pretoria qui a ordonné en août dernier que la dépouille de Lungu soit rapatriée dans son pays pour des funérailles nationales telles que voulues par le gouvernement zambien. Pourtant, aucun rapatriement officiel n'a été effectué. La famille aurait saisi la Cour suprême d'appel d'Afrique du Sud, mais son silence entretient des spéculations.
L'invité.
Il s'agit du professeur Willy Ali Kiamassa, ministre provincial des Finances du Maniema. Il assume l'intérim du gouverneur de province en mission. Grâce à la taxe conventionnelle, le gouvernement provincial du Maniema a lancé la deuxième phase de réhabilitation des routes Kindu-Kibombo-Samba-Kasungu, ainsi que de certaines voiries urbaines de Kindu. Le professeur Willy Ali Kiamassa répond aux questions de Florence Kizalunga.
Ali Kiamassa, Willy, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Encore une fois, le gouvernement provincial, grâce à la taxe conventionnelle, vous venez de lancer aujourd'hui les travaux de réhabilitation de la route Kindu-Kibombo-Samba-Kasungu.
Oui, effectivement, nous venions de lancer à peine là la réhabilitation de cette route, comme vous l'avez dit, Kindu-Kibombo-Kasungu-Samba, par la méthode IMO. Ça veut dire haute intensité de main-d'œuvre. Et ce, grâce aux contributions des opérateurs économiques, des filles et fils du Maniema, à travers ce qu'on appelle les taxes conventionnelles.
La taxe conventionnelle, pourquoi elle s'occupe seulement de l'intérieur de la province et non de la vie des Kindu?
Ah, très bien. Et dois-je tout de suite vous dire que dans ce lancement, on a pris en compte aussi quelques tronçons de la ville de Kindu, particulièrement l'axe centre-ville Université Luama. Et là, l'opérement va travailler avec les concours de nos frères en armes, l'armée et la police. Mais la prise en charge sera totalement du gouvernement provincial.
Le gouvernement provincial opérement travaille cela et c'est la méthode IMO. Est-ce que avec la capacité, le nombre de travailleurs, vous pensez que ces travaux peuvent prendre combien de temps?
Vous savez que avec les taux accrus du chômage, avec la volonté de la population du Maniema elle-même de voir ses routes réhabilitées, la population se bouscule au potillon pour participer à désenclaver leur propre province. Et donc, les équipes sont séquencées, présentées par quelques kilomètres. Il y a une équipe qui commence à Kindu, il y aura une autre équipe qui sera basée à 37 kilomètres, ainsi de suite jusqu'à Kasongo. Le matériel étant déjà déployé, alors toutes ces équipes vont faire jonction sur ces tronçons Kindu, Kibombo, Kasongo, Samba.
Quel intérêt que présente cette route, ces tronçons Kindu, Kibombo, Samba, Kasongo pour les chefs-lieux de la province du Maniema?
Ah, mais directement, vous l'avez déjà vous-même dit, cette route est d'intérêt capital pour la ville de Kindu. Aujourd'hui, comme la route qui quitte Kindu, Kipaka, Kasongo n'est pas encore opérationnelle, bien que les travaux avec les concours de Padrir, on est au PK 48 km, mais c'est cette route qui qui sert de relais pour atteindre facilement le territoire de Kasongo et prolonger vers le territoire de Kabambare. Et donc, cette route-là, Kindu, Kibombo, Kasongo, Samba, est aussi d'importance capitale, au même titre que la route Kindu, Kipaka, Nonda, Wamaza, jusqu'à Kabambare, partout là.
Vous avez dit, bien sûr, que vous avez pris quelques routes, tronçons de la ville de Kindu, notamment l'université, mais il s'observe que dans toutes les communes, il n'y a pas de route, que ce soit dans les quartiers, tout comme dans les avenues. Est-ce que le gouvernement provincial y pense aussi?
Mais naturellement, mais on ne peut pas tout commencer à la fois et au même moment. Je vous ai dit qu'il n'y a pas une caisse là avec de l'argent qui existe. C'est des fonds qui sont récoltés à partir des filles et des fils d'Imaniem. D'où la province elle-même est totalement enclavée. La ville de Kindu, comme vous venez de le dire, les nitétés, les quelques tronçons qui sont goudronnés, je suis de votre avis que toutes les avenues, toutes les rues dans la ville de Kindu ici sont dans un état d'impraticabilité. Mais on ne peut pas commencer avec tout ça à la fois et au même moment, surtout que les maigres recettes ici des taxes conventionnelles ne permettent pas de les faire. Il faut qu'il y ait un débit et on a commencé. Progressivement, nous allons occuper et cadrer aussi la ville de Kindu en termes de réhabilitation des tronçons routiers.
Qu'en est-il de votre politique de cantonnage, Manuel? Parce que nous avons des retours que là où le gouvernement provincial avait déjà réhabilité, il s'observe que la route se dégrade encore.
Oui, mais l'office des routes, qui est l'organe technique qui devait le faire avec des engins, n'a aucun engin au niveau de la province du Maniema. L'OVD non plus. Maintenant, que voulez-vous? Est-ce qu'il faut qu'on abandonne et on ne fait rien? C'est comme ça que l'on a conçu les systèmes IMO dont je venais de parler tantôt. Mais en créant l'opérement à l'office provincial de réhabilitation des routes, au finish, l'idée de son excellence, monsieur le gouverneur, c'est d'acquérir quelques engins en propre pour la province, lesquels engins vont commencer à aider d'abord la réhabilitation et le cantonnage manuel suivra après. Et pour le moment, c'est vous qui me donnez l'information, mais je sais que là où on a réhabilité, à chaque kilomètre, on est en train d'installer un cantonnier pour maintenir en état la route en état de circulation 12 mois sur 12 mois.
Ali Kamasa Willy, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste.
C'est également la fin de ce journal préparé par Alain Rong et Lise Chikota Chivuita avec Dudu Nyangasa. Mise en onde, Babel Pongo Masimango à la présentation. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonne suite au programme sur Radio Okapi.